La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Si l'on numérisait toutes les communications et les écrits depuis l'aube de l'humanité jusqu'en 2003, il faudrait 5 milliards de gigabits pour les stocker. Aujourd'hui, nous générons ce volume d'informations numériques en 2 jours. Et pourtant, ce n'est pas là, dans cette incroyable production et accumulation de données, que s'opère la véritable révolution, nous prévient Dominique Cardon, mais plutôt dans la capacité et la manière de les calculer, de les trier, de les organiser, au point de façonner une grande partie des cadres cognitifs et culturels de nos sociétés nouvelles, des sociétés de comportement. Il est donc plus que l'heure d'ouvrir la boîte noire des algorithmes. Dominique Cardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chercheur au laboratoire des usages d'Orange Lab, mais aussi professeur à l'université de Marne-la-Vallée. Vous publiez dans la collection La République des idées « À quoi rêvent les algorithmes, nos vies ?» à l'heure des big data. Alors ce livre fait suite d'une certaine façon à un livre précédent dans cette même collection que vous aviez consacré à l'internet, déjà à nos usages, et toujours dans cette perspective qui est la vôtre de vous intéresser précisément à ces usages, c'est-à-dire à la façon dont nous, individus, rencontrons et vivons avec des machines et la façon dont tout ça est en train de changer à une vitesse faramineuse durant ces dernières années, que vous vous situez avec ce livre-là sur ce qu'on appelle les big data, les données. Et je voulais commencer cette émission en vous citant et en citant ce fait. Alors c'est vrai qu'il se produit énormément d'informations, on stocke énormément d'informations, mais au fond c'est pas là sans doute le plus important, même si c'est très spectaculaire qu'on insiste beaucoup là-dessus. Ce qui se passe de plus important, c'est plutôt que sont apparus des outils, des machines, des logiciels qui permettent d'organiser ces informations d'une certaine façon. Et cela produit d'ores et déjà des effets absolument considérables sur nos vies, qu'on ne soupçonne parfois pas. Et c'est ça l'enjeu de ce nouveau livre, Dominique Cardon.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté, on peut dire, spectaculaire de l'arrivée des données numériques. Il y a aussi toute une série de peurs qu'elles génèrent sur notre vie privée, sur la manière un peu d'aspirer toute une série de traces auxquelles on n'aurait jamais pensé. Les livrer comme ça au grand circuit de l'électronique. Mais d'une certaine manière, les données, bon, on connaît ça très bien, hein, les données, ça ne dit rien, il faut les faire parler, il faut les agréger, il faut produire des significations, et il faut ensuite que cette signification, par retour, c'est là l'intérêt d'une sociologie des usages, elle accroche aussi sur nos propres pratiques, nos conduites, nos représentations. Finalement, des données toutes seules ne sont pas très menaçantes. Ce qui est menaçant, c'est la manière, ou intéressant hein, aussi, c'est la manière dont, en fait, avec ces données, des calculateurs vont arriver à produire une sorte de mise en signification de ces données qui vont ensuite produire les différents services du web auxquels on accède aujourd'hui. Alors moi, c'est effectivement cette idée que, bon, big data, d'accord, mais regardons les calculateurs. Et c'est les calculateurs qui m'ont intéressé.
D'autant que big data ou les données, c'est pas vraiment un concept très nouveau pour les sciences sociales, parce qu'elles ont participé, les sciences sociales, dès le 18e, 19e siècle, à la production de données, comme on dit. C'est un lexique qui renvoie même au début des sciences sociales. Sauf qu'aujourd'hui, on produit plus vraiment les données de la même façon. D'ailleurs, vous expliquez bien comment, de la sociologie, pour aller vite, on est passé à l'économétrie, par exemple. Et puis, le rôle extrêmement important aussi dans tout ça, des progrès de l'électronique, de la puissance de calcul, au point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les données, mais on y reviendra sans doute, mais finalement, on va essayer de les organiser, mais on ne les regarde plus avec l'idée de chercher de la causalité dans les données, mais plutôt simplement des corrélations.
Absolument. Alors, c'est un des lignes un petit peu sous-jacentes à l'ouvrage, c'est qu'effectivement, avec les big data, sont apparus aussi de nouveaux professionnels de la donnée, qui viennent plutôt de l'informatique, de la physique, des sciences un peu dures. C'est vrai que les données, ça n'a rien de nouveau.
C'est tellement dur qu'on parle de data mining. Enfin, on va à la mine avec un piolet. Il y a une image là qui est assez étonnante.
Il y a la fouille des données. Hein, c'est le grand terme. On finalement, et avec d'ailleurs dans le discours des big data, cette idée que c'est pas grave si elles sont pas propres, c'est pas grave si elles sont pas très organisées, bien catégorisées, etc. Il suffit d'en avoir beaucoup pour trouver des résultats. Donc il y a cette idée un petit peu de des professionnels arrivent, qu'on appelle data scientists maintenant, et qui ont souvent, et c'est un reproche qui court un petit peu comme ça, assez peu de culture statistique. Or, moi, ce que j'essaie de faire, c'est finalement de politiser la question des calculateurs, je pense qu'on y reviendra, et pour politiser la question des calculateurs, il faut revenir avec un endroit où depuis très longtemps, nos sociétés se sont regardées, représentées, mesurées, qu'est la statistique, son lien ancien avec la construction des États-nations, avec la représentation de la population, des catégories socio-professionnelles, de toute une série de choses qui sont éminemment politiques. Et finalement, il y a une certaine manque de culture statistique chez les data scientists. Alors moi, je
pense... Une naïveté confondante, parfois.
Absolument considérable sur l'idée qu'il suffirait d'avoir les données pour produire des résultats pertinents. Et donc, d'une certaine manière, l'interrogation qui m'a guidé, c'est un peu de revenir sur la manière dont les questions statistiques sont au cœur de l'interprétation de ces données et qu'effectivement, vous le soulignez, il y a eu une révolution dans les formes du calcul statistique qui est, pour le dire de façon très triviale et rapide, de dire qu'on est passé d'une statistique qui s'organisait beaucoup autour de la moyenne, autour de la corrélation, autour d'un test des hypothèses et que les économistes avaient réduit à peau de chagrin en essayant de calculer toute chose égale par ailleurs la liaison entre deux variables, à une statistique qui, elle, met toutes les variables à plat, et puis teste en fait des familles d'hypothèses, mais qui sont des milliers d'hypothèses, et puis va essayer de trouver localement les hypothèses qui fonctionnent le mieux. Donc c'est une révolution qui est rendue possible parce qu'on peut calculer des choses qu'on ne pouvait pas calculer avant. C'est aussi une révolution épistémologique à l'intérieur du calcul, et puis moi je crois que c'est aussi une révolution politique par derrière. C'est cette idée que finalement les données peuvent se calculer par le bas, et cette idée de calculer, de représenter la société par le bas, elle résonne avec plein de problèmes politiques qui nous sont très contemporains à l'égard des formes de la représentation par les médias, par les journalistes, par les hommes politiques, par les syndicats, par les partis. Il y a aussi du côté des calculateurs cette idée qu'on va pouvoir, de façon auto-organisée, voir le monde depuis la réalité des comportements, sans avoir à le décrire par le haut à travers les catégories qui le faisaient tenir, à travers notamment la statistique sociale d'État qui avait été construite au 19e siècle.
Oui, les big data, c'est un peu la France d'en bas de Jean-Pierre Raffarin, mais dans cet univers, c'est Jean-Pierre Raffarin 2.0, pourrait-on dire, en quelque sorte. C'est-à-dire cette espèce d'empirisme un peu béat. Parfois, alors, ce travail, votre travail, Dominique Cardon, de sociologue, s'inscrit dans une tradition de recherche qui interroge les statistiques. Je pense aux travaux d'Alain Desrosières, que vous citez beaucoup, ou d'Emmanuel Didier, plus récemment. Alors on va prendre une chose très très concrète qui nous concerne tous, qui est la manière dont on mesure ou dont on a mesuré successivement et en même temps l'audience ou la réputation ou en tous les cas la puissance, l'influence du web, d'internet, de nos comportements sur le web. Vous avez un premier chapitre dans ce livre, À quoi rêvent les algorithmes, qui est passionnant pour qui ne connaît pas cette cuisine interne. On est déjà au cœur de la boîte noire qui occupe un certain nombre de professionnels, de la publicité, des médias, de l'informatique, etc. Et qui nous explique donc comment ont été inventées peu à peu des manières de mesurer les audiences. Et pour ça, vous utilisez une image en disant, au fond, aujourd'hui, il y a quatre façons de produire des données sur les fréquentations de l'Internet, selon que l'on est à côté, que l'on est dedans, que l'on est au-dessus ou que l'on est en dessous, finalement, de l'Internet. Alors la première manière, historiquement, chronologiquement, ça a été de se placer à côté. C'est une manière qui continue de jouer un rôle extrêmement important dans notamment la fixation du prix de la publicité. Et donc, on voit bien les effets que ça a, très concrets dans l'univers des médias, sur tout simplement le fait pour certaines entreprises de pouvoir continuer à gagner de l'argent ou pas. Mais en gros, tout ça pose quand même beaucoup de problèmes méthodologiques. Et ce qui est incroyable, c'est vraiment ce côté, moi en vous lisant, je me suis fait la réflexion, c'est ce côté boîte noire. C'est-à-dire qu'on a là quand même des choses qui sont à l'œuvre depuis maintenant une vingtaine d'années, pour les plus anciennes, qui ont produit des effets très concrets sur l'économie et qui sont assez peu connues, partagées par les citoyens, alors qu'elles les concernent au premier chef.
Je crois, au fond, c'est un livre qui a une sorte de vocation un peu pédagogique civique, on pourrait dire, qui est de dire, pour politiser les algorithmes, il faut rentrer dedans et essayer de les comprendre. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails statistiques, mais du coup, j'ai divisé en quatre familles, c'est très caricatural, mais en même temps, ça permet de comprendre en disant que le calculateur se place à côté, au-dessus, dans ou dessous les données. Et effectivement, quand il est à côté, c'est la mesure traditionnelle dans laquelle le web est entré dans le monde de la mesure de la visibilité, c'est qu'il a repris, et là, de façon quasi mimétique, aux formes de mesure de l'audience des médias traditionnels, l'idée qu'en comptant le nombre de clics de visiteurs uniques, on allait pouvoir classer les sites en fonction de leur audience et du coup de leur popularité. Alors, c'est un modèle qui est celui de médiamétrie, c'est celui des médias de masse, c'est un modèle qui a une histoire ancienne, qui a une forme politique qu'on a un petit peu oubliée idée qui avait été travaillée dans des travaux de Cécile Méadel notamment, hein, sur cette idée que ça rejoint aussi l'idée démocratique que le public, toutes les voix sont égales, hein, tous les clics ont le même poids.
Là c'est les adresses IP, mais enfin ça revient au même. Les adresses IP, c'est donc l'identification de l'ordinateur qui est utilisé pour accéder.
Voilà. Alors évidemment c'est trucable aussi, hein, dans le monde du web, mais les mesures d'audience télévisées sont parfois imparfaites aussi. Et donc il y a l'idée qu'on représente le public à partir d'un référent qui est externe à l'univers du web, qui est la société, et notamment la société dans son définition nationale à travers les catégories socio-professionnelles que la sociologie et le marketing ont fabriquées et que le marché publicitaire a endossé pour ensuite mesurer l'idée que certains messages, certaines informations vont pénétrer dans des catégories qui vont être les hommes, les femmes, les niveaux de revenus, etc. Et donc on a une représentation statistique qui se fait de façon assez classique et qui, sur le web, n'a pas été la plus originale parce que très rapidement est arrivée une deuxième famille qui a été sans doute, je crois, l'innovation des pionniers du web, qui est de mesurer l'autorité de l'information. L'autorité n'est pas la popularité.
Ça, c'est Google.
Alors, on peut dire que c'est Google, mais c'est aussi toutes les communautés de logiciels libres, de Wikipédia, etc. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'une information doit être visible parce qu'elle a été beaucoup citée par d'autres. Donc, c'est la reconnaissance de l'importance qui est donnée à telle ou telle personne ou telle information pour Google à travers le lien hypertexte qu'il mesure, et plus un site reçoit de liens hypertextes de gens qui ont eux-mêmes reçu beaucoup de liens hypertextes, un mécanisme récursif, va acquérir une visibilité accrue par rapport aux autres, et on va produire un classement qui est une sorte de classement de l'excellence. Hein. Alors c'est une excellence qu'on peut critiquer, hein, mais c'est une excellence à travers un principe qui est celui de la reconnaissance, dans lequel évidemment tous les sites web qui citent d'autres sites web n'ont pas le même poids. Et donc l'idée n'est plus du tout démocratique au sens de la première famille, mais elle est véritablement méritocratique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de hiérarchie des excellences qui s'additionnent mutuellement, au point de faire de cette méritocratie une sorte de centrifugeuse incroyable de la visibilité qui accorde à énormément, à très très peu, et puis qui laisse les autres dans l'ombre et la médiocrité. Et donc ça a été à la fois un facteur assez original de production de la visibilité et en même temps évidemment un facteur aussi d'accroissement d'inégalités très fortes. Vous savez, c'est ces inégalités qu'on rencontre beaucoup et que discutent beaucoup de gens qui sont plus les 80-20, on dit 20% des personnes reçoivent 80% de la ressource. Là, on est sur des inégalités où c'est 1% des personnes qui reçoivent 90% de l'attention.
Passage de la loi de Pareto à la loi de Mathieu, dites-vous.
En fait, c'est une loi de puissance avec un coefficient très élevé, on va dire.
Voilà. Alors, ça, c'est l'époque, chronologiquement, c'est la deuxième époque, c'est l'époque de l'apparition de Google, de Wikipédia, etc. Mais c'était avant l'âge des réseaux sociaux, qui viennent bousculer un peu, ou ajouter une nouvelle manière, au fond, de hiérarchiser, d'organiser les données.
Absolument. Après la popularité et l'autorité, est venue une troisième famille, 2005, hein, c'est l'apparition des réseaux sociaux. C'est l'idée que c'est beaucoup trop écrasant, ce modèle de l'autorité, qu'il uniformise, qu'il moyennise, en fait, hein, sous ses airs d'excellence, en fait, il produit de l'uniformité. Et puis surtout, tout le monde ne participe pas au classement. Hein. Les internautes qui n'ont pas de blog ou de site ne produisent pas de lien hypertexte. Et d'une certaine manière, les réseaux sociaux avec leurs fameux boutons, hein, like, retweet, Pinterest, etc., etc., ils permettent à des internautes, dans la massification des usages de l'Internet, ils permettent à n'importe quel internaute
d'interagir simplement. Mais...
Et surtout de dire à la fois ce document est important, puis en même temps de montrer aux autres. Réseau d'affinité, j'aime ce document et de construire son identité. Donc on a un processus double en fait qui se met en place et dans lequel on fait éclater, on démultiplie les classements et chacun va finalement voir des classements de réputation de l'information qui sont liés à la structure du réseau d'affinité qu'il s'est constitué et la hiérarchie de l'information va entièrement être dépendante en fait de la manière dont vous vous êtes territorialisé sur le web à l'intérieur d'un cercle social particulier. Si vos amis sont divers, polyphoniques et curieux, vous allez voir, bah, c'est des choses diverses, polyphoniques et curieuses. Si vos amis vous ressemblent, parlent toujours de la même chose et font toujours la même chose, on va voir exactement toujours la même chose. Donc on a une manière d'éclater en fait la centralité de la mesure vers des niches de visibilité et dans lequel ce qui va devenir très important, et c'est pour ça que ma métaphore est de dire que le calculateur vient dans le web, c'est-à-dire qu'il vient dans la pratique des internautes, il ne cherche plus à objectiver par au-dessus ce que sont les liens, mais il donne aux individus des instruments stratégiques pour agir sur les autres et pour produire leur réputation. Et donc la question du calcul est insérée réflexivement à l'intérieur même de la conduite des personnes et elle produit des formes statistiques que l'on connaît bien parce qu'elles ont été beaucoup étudiées, elles nous sont arrivées en force dès les années 80, qui est une logique de benchmark. La mesure de tweets, de retweets, de nombre d'amis, de viralité, etc. ne mesure pas la réalité en fait des phénomènes, il mesure l'action qu'ont menée des gens pour agir sur la mesure et produire leur propre viralité. réalité.
Donc l'artefact est au centre, il est reconnu comme tel, on ne cherche même pas à le maîtriser comme dans les autres mesures à côté ou au-dessus.
Absolument, hein, on perd cette dimension. Chez Google, il y a une dimension scientiste, positiviste, on sent que leur opérateur, c'est le microscope. Hein.
Même si certains essayent évidemment
de le truquer,
essayent d'être plus malin que Google en permanence, c'est une course sans fin, vous le dites. Les sociétés qui gèrent la réputation sur le web ou qui sont ce qu'on appelle les SEO, hein, Search Engine Optimization, sont des gens qui passent leur journée à essayer de comprendre quel est le nouvel algorithme de Google pour faire en sorte de faire apparaître leur page au sommet des recherches des utilisateurs.
Absolument. Mais c'est le jeu avec tous les calculateurs, hein, les mesures, c'est qu'une mesure est faite pour être truquée, pour être jouée. Les utilisateurs, et moi c'est ma confiance aussi dans les transformations sociologiques qui vont avoir lieu avec ces nouveaux calculateurs, c'est qu'on va les apprivoiser. Et d'une certaine manière, ce livre voudrait participer à une sorte d'éducation critique, c'est-à-dire que comprenant leur fonctionnement, on adapte aussi nos comportements à eux. Et il est évident que les techniques de trucage, hein, ou de jeu avec les opérateurs qui les mènent sont incessantes. Mais ce qui est nouveau dans l'idée du benchmark du web social, la mesure qui est dans le web, c'est vraiment qu'elle organise un monde dans lequel ce qui est au cœur, c'est la compétition des réputations. C'est-à-dire que, certes, la mesure ne mesure pas, mais la comparaison de deux états de la mesure à T+1 va permettre de montrer si on a fait des progrès, si on n'a pas fait des progrès, si on est en avance, etc. Et donc, c'est cette idée qui est venue avec toute la politique des indicateurs dans les entreprises et sur les marchés.
Tout ça vient juste après le New Public Management, un certain type de transformation de la gestion, aussi bien des administrations que des entreprises d'ailleurs, qui repose sur ce type de...
Je crois absolument. Et du coup, l'idée que de plus en plus, les politiques publiques d'entreprise, etc., invitent les individus à se construire eux-mêmes et en même temps à produire des actions qui sont destinées à être mesurées et mesurables pour assurer l'efficience et la réputation des individus, est au cœur de ce jeu qui, du coup, du point de vue de beaucoup d'autres acteurs, produisent des mesures qui sont très imparfaites. Et on voit bien que dans le débat des big data, tout ce qu'on essaye de faire avec des réseaux de tweets, etc., produit des visualisations qui sont souvent plus belles que significatives, précisément parce que, en fait, elles fonctionnent sur des logiques qu'on ne peut plus rattacher à la représentation, comme dans la première famille, qu'on ne peut pas objectiver de façon distante, comme dans la deuxième famille, et qui, du coup, sont assez plastiques, manipulables. Hein. Et moi, je crois qu'une des raisons de l'arrivée de la quatrième famille, on le sent bien chez les...
Voilà, parce qu'on en est là, et c'est probablement ce qu'on connaît le moins bien, d'une certaine façon, à la fois parce que c'est nouveau, mais aussi parce que c'est plus souterrain. C'est pour ça que vous le placez en dessous, aussi. C'est... quatrième manière de mesurer.
Absolument. Ce qui arrive avec les calculateurs dits des big data, c'est effectivement de se dire bon, mesurer à côté, c'est pas terrible. Mesurer au-dessus, ça produit trop de centralité. Mesurer dedans, c'est pas très fiable. On va placer le calculateur en dessous et on va mesurer des traces qui sont des traces implicites. Dans la deuxième famille, on mesure des expressions qui sont explicites de la part des individus.
Donc on enregistre les navigations.
Là, on enregistre des traces de comportement, de navigation, des clics. Et puis évidemment, on peut sortir du web avec des objets communicants, avec toute une série de traces qui ne cessent de s'accumuler et éventuellement d'être articulées les unes aux autres. Mais le message qui est derrière, c'est de mesurer les comportements et de ne pas mesurer les représentations. On avait beaucoup trop de représentations dans la famille des métriques du web social. Ici, on va essayer de mesurer les traces, ne pas écouter ce que les gens disent, mais regarder ce qu'ils font, parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et du coup, essayer d'avoir une vision absolument comportementale, hein, ça a été beaucoup souligné, de ces nouvelles techniques qui essayent de personnaliser les calculs pour dire à l'individu, on ne cherche plus à te ramener à l'audience, on ne cherche plus à te ramener vers la moyenne ou la centralité,
c'est toi
le
qui
centre
nous
de la société.
Toi comme
c'est
personne.
Toi qui nous intéresse. Et tes traces vont nous dire, comparé aux traces des autres, que le passé de tes comportements nous invite à penser qu'il y a une probabilité forte que tu puisses faire ou aimer ceci, etc. Et donc on personnalise complètement le calcul dans une logique qu'il faut vraiment, je crois, bien comprendre, c'est-à-dire qu'elle est pas une logique disciplinaire d'enfermement des individus, elle renvoie vers les individus ce message très libéral de lui dire tu finalement par les traces que tu m'as données, tu es responsable de ce que je suis en train de te proposer. Hein, et donc elle dit constamment à l'individu, si tu es curieux, je te montrerai des choses qui te rendront curieux. Si tu n'es pas curieux, eh bien tu auras toujours la même chose. Et donc elle renvoie toujours cette idée que les individus doivent se gouverner eux-mêmes, hein, à travers une sorte de production de la liberté ou de l'autonomie du choix. C'est que c'est à travers leur comportement que les calculateurs vont ensuite essayer de dessiner la figure personnalisée de ce qu'ils pourraient faire à travers la comparaison avec les autres aussi, hein, qui ont fait la même chose.
Alors, cette dernière manière de procéder, au fond, souligne peut-être encore un peu plus que les autres la différence, le contraste d'objectifs qui peut exister entre ces professionnels des données de nouveaux types. Et puis, les anciens professionnels des données, dont vous faites partie, Dominique Cardon, en tant que sociologue. Oui, c'est-à-dire que ce qui intéresse ces nouveaux professionnels des données, c'est de mettre à jour des corrélations de façon à prédire. Or, ce qui intéresse un sociologue, c'est d'aller au-delà de la question de la corrélation pour poser celle de la causalité. Sinon, on ne produit plus d'explications de sciences sociales, au fond. Et là, on voit bien que dans un cas, on a un intérêt économique, un intérêt commercial, souvent, et que l'intérêt de connaissance n'est vraiment pas leur problème à tous ces spécialistes de données, et peut même entrer en conflit, d'une certaine façon, avec celui des social scientists, Dominique Cardon.
Absolument. C'est le changement de paradigme qui a lieu actuellement dans le monde des statistiques et des calculs. C'est que finalement, mesurer le monde, c'était un moyen de le connaître et effectivement de l'expliquer et de le connaître, que c'était la fonction à la fois du chercheur, mais c'était aussi d'une certaine manière dans notre appréhension du monde, une manière d'être au monde dans lequel un certain nombre de choses étaient déterminées par des relations dont on avait la théorie, dont on avait la perception, donc on pouvait essayer de décoder. Bon, aujourd'hui, on est passé d'un modèle de l'explication à un modèle de la prédiction dans lequel finalement la théorie qui explique la dépendance entre des variables n'est plus intelligible. Hein, et elle est vraiment pour certains algorithmes, pas pour tous, hein, il faut être très attentif à la variété des systèmes de calcul, mais un certain nombre des nouveaux calculateurs, ce qu'on appelle les SVM, les fameux réseaux de neurones, etc., plus personne, pas même celui qui les fabrique, hein, et surtout pas lui, ne peut comprendre pourquoi les corrélations qui ont été établies vont dans cette direction
c'est
et pas dans
telle autre. C'est comme pour la finance. C'est les mêmes, la sophistication de certains produits dérivés.
Oui, oui. Alors, il y a une sophistication dont on perd la maîtrise, ce qui pose plein de problèmes à plein de métiers. Moi, je pense, par exemple, au monde de la publicité et du marketing est en proie à une inquiétude très forte aujourd'hui, puisque finalement, les algorithmes sont en train de devenir des robots aux enchères qui calculent directement et eux, ils n'ont plus du tout leur fameux plan média avec les segments, les beaux segments de planning d'orientation sont en train de menacer leur affaire. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est aussi un changement du mode de raisonnement. C'est-à-dire que le mode explicatif est un modèle déterministe. C'est-à-dire que finalement, les lois de la nature qu'on rend intelligibles et qu'on connaît, elles sont des lois de détermination fortes. Hein. Ce qui est aujourd'hui en jeu et ce qu'on comprend souvent mal dans les modèles nouveaux qu'on appelle bayésiens, principalement parce qu'ils sont de statistiques, c'est qu'ils sont absolument probabilistes. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a une détermination forte des petites corrélations qui ont été trouvées entre les variables en brassant plusieurs modèles. C'est souvent, voilà, il y a un petit peu plus de chances que vous puissiez faire ou aimer cette chose-là, mais la relation n'est jamais une relation directe, immédiate, comme l'était une relation déterministe.
Alors, là, vous avez fait le récit, Dominique Cardon, passionnant de ces transformations extraordinairement rapides, parce que tout ça se passe en 15 ans. Mais ce qui me frappe, en vous lisant, c'est que, malgré tout, il y a une forte inertie. Vous disiez, le marché de la publicité a de quoi s'inquiéter, et c'est vrai que le coût par mille, par exemple, sur Internet s'effondre. Bon, pourtant, tout le monde pense qu'Internet est l'avenir des médias, parce que ça va générer beaucoup de recettes publicitaires. Et tout le monde continue de fonctionner dans les médias, et dans les journaux en particulier, sur la base du premier modèle, c'est-à-dire en faisant pas attention au comportement des gens, mais personne ne prend garde au fait que 80% d'une audience d'un journal quotidien aujourd'hui sur Internet est composée de gens qui viennent en fait une fois par mois, c'est-à-dire qui sont là par hasard, c'est-à-dire ils ont tapé quelque chose dans Google, ils se retrouvent sur un journal. Mais ces gens, les publicitaires, trouvent un intérêt économique visiblement à continuer de les acheter au même prix que ceux qui viennent 30, 100, 200, 300 fois par mois et dans une attitude parfaitement démocratique, c'est-à-dire que leur visite vaut autant que quelqu'un qui est... Voilà. Alors aujourd'hui, on a les outils statistiques qui permettraient de raffiner, mais pourtant, les organisations économiques, les échanges qui existent entre les publicitaires, les médias et l'autre, restent dans des logiques extraordinairement rustres. On a du mal à comprendre quand même, alors peut-être parce que ça change trop vite, mais tout ça pour dire que si, c'est très important ce que vous faites d'ouvrir la boîte noire, parce que je pense que tous les journalistes particulièrement devraient ouvrir la boîte noire pour essayer de trouver des solutions à la crise des modèles économiques dans lesquels ils sont, parce qu'ils ont peut-être là des solutions pour sortir de mesures qui n'ont plus aucun sens avec, au fond, la réalité des comportements, pour le coup.
Oui, alors en fait, il y a un peu deux questions, parce que il y a effectivement la question du marché publicitaire, qui est bon, un marché, alors c'est les promesses du marché publicitaire sur Internet, moi je n'y crois pas beaucoup, les promesses de la...
Ça ressemble à une bulle, hein.
Je crois vraiment que c'est une bulle qui dure, dont on ne sait pas très bien pourquoi elle continue à durer, elle a peut-être aussi, bon, on voit qu'il y a des intérêts économiques extrêmement forts à essayer de la préserver, mais effectivement, d'une certaine manière, c'est toujours frappant quand on nous a beaucoup dit au début début de l'Internet, que l'Internet, c'était le lieu de la précision. Hein. C'est qu'enfin, on allait savoir, hein, au lieu de l'affichage publicitaire, qui était effectivement très imprécis sur les effets qu'il pouvait avoir sur ces cibles, que là, les cibles, on allait vraiment les voir. Bon, en réalité, on les voit très mal.
On a créé de nouvelles opacités, en fait. Et peut-être certains acteurs sociaux ont intérêt à cette forme d'opacité.
Oui, mais alors, du coup, l'opacité dans des deux côtés, parce que effectivement, la mesure d'audience est très imparfaite, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais la mesure d'audience télévision et radiophonique est très imparfaite, elle fait convention. Sa force, c'est d'être une convention sociale partagée par tous, médias.
Le problème, c'est pas de décrire la réalité. Le problème, c'est d'être d'accord.
Voilà, c'est ça, c'est absolument. Et du coup, qu'il n'y ait qu'un seul mesureur. Alors, sur Internet, c'est vrai qu'il y a plusieurs mesures, mais bon, tout est assez imprécis. Mais il faut aussi dire, hein, parce que c'est aussi un des points plus loin dans l'ouvrage, aussi, qu'il faut aussi avoir un regard assez critique et sceptique, parfois, sur la performance des fameux calculs, et même des familles des nouveaux calculs. Hein, c'est-à-dire qu'ils calculent un peu mieux, ils trouvent peut-être un tout petit peu plus de choses, mais ils fonctionnent aussi dans une certaine imprécision. Et une partie maintenant, effectivement, du marché publicitaire sur Internet est en train d'être programmatique, comme on dit, c'est-à-dire que c'est des mises aux enchères qui se font souvent, d'ailleurs, à l'insu complet ou sans aucun contrôle de la part des éditeurs médias qui les tolèrent sur leur page et sur lesquels les médias planeurs traditionnels ont plus d'importance. Ça joue sur une petite partie, hein, simplement, du marché actuel, et il n'est pas sûr que son développement ou son efficacité soit aussi forte que celle que l'on dit souvent.
Alors, on n'aura pas le temps de l'évoquer, mais je voulais dire un mot de votre conclusion, la route et le paysage, comme un clin d'œil à la carte et le territoire, parce que, au fond, Dominique Cardon, l'idée, c'est de montrer ce qu'on est en train de vivre avec le passage de ces moments où on rêvassait sur une carte routière en se demandant quel chemin on allait prendre, et puis ces situations dans lesquelles, désormais, on entend cette voix, en général, désagréable dans les haut-parleurs de l'habitacle d'une voiture qui nous dit de tourner à gauche ou de tourner à droite, et ça change, évidemment, notre relation au territoire qui, lui, n'a pas changé en revanche. Merci beaucoup, Dominique Cardon. Je rappelle le titre de ce livre, À quoi rêvent les algorithmes ? Il est publié à La République des Idées aux éditions du Seuil. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau à la réalisation aujourd'hui, Jean-Christophe Francis, attaché de production Cyril Baer, et à la technique Bernard Laniel. Dans quelques instants, c'est Étienne Klein que l'on retrouve sur l'antenne de France Culture pour la conversation scientifique.